Bob Dylan.
Pour moi, la musique, ce n'est pas du business. Ainsi que pour les gens qui ont survécu avec moi. Ce n'est pas du tout un business et ne le sera jamais. C'est juste une manière de survivre.
Ça peut pas faire de mal.
Je jouais dès l'âge de 12 ans. C'est seulement ce que je voulais faire, jouer de la guitare. C'était à l'époque une façon d'attirer l'attention. Cela a commencé ainsi. Mais je ne savais pas où cela allait me mener. Maintenant que j'en suis là, je ne sais toujours pas où je suis.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?
Parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Parce que je fais ça bien.
Comment décririez-vous ce « ça » ?
Je suis un artiste. J'essaie de créer de l'art.
Croyez-vous que vous avez un but ou une mission ?
Évidemment.
Et c'est quoi ?
Le but le plus élevé de l'art est d'inspirer. Que peut-on faire d'autre ? Que peut-on faire pour les autres, sauf les inspirer ? Il suffit d'amour, de discernement et d'un point de vue affirmé. Et il faut lutter contre la dépravation. Ne pas se laisser aller au compromis. Voilà ce qui fait un bon artiste.
Pouvez-vous nous dire un peu comment telle ou telle chanson vous vient à l'esprit ?
Elles me viennent quand je suis tout à fait isolé dans l'espace et dans le temps. J'élimine beaucoup de vers qui m'inspirent.
Parce qu'ils sont trop bons ?
J'élimine beaucoup. Je me connais tout de même assez bien pour savoir que le vers peut être bon et que c'est le premier vers qui donne l'inspiration et qu'ensuite c'est comme si on chevauchait un taureau. Et si on croit qu'on fait quelque chose d'important, on garde contre vents et marées.
Il y a des vers qui vous donnent l'impression que l'on chevauche des taureaux sauvages ?
Oui, il y a des vers comme ça. Il y en a beaucoup qui feraient mieux de rester sur une page imprimée et de finir comme poème. En une journée, il m'en vient une quantité qui sont, disons, assez étranges et je n'ai rien de mieux à faire. J'essaie de ne pas trop faire attention à ces vers sauvages et obscurs, j'en oublie pas mal.
Est-ce que la mélodie suit une fois que vous avez écrit toute la chanson ?
En général, j'ai déjà la mélodie avant la chanson.
Et elle est là, à attendre ce premier vers.
Oui.
Vous considérez-vous surtout comme un poète ?
Non. Il n'est pas nécessaire d'écrire pour être un poète. On peut travailler dans une station-service et être un poète. Moi, je ne me considère pas comme tel, parce que je n'aime pas le mot. Je suis un trapéziste.
Lorsqu'un matin de janvier 1961, arrivé de son Midwest natal, il a débarqué sur un trottoir de New York, Bob Dylan avait sa guitare d'occasion pour tout bagage, tandis que le brouillard et la neige donnent un cadre à l'image. Des airs de folk song dans la tête, nourris de littérature et de l'idéologie de la rue, celui qui s'appelait encore Robert Zimmerman semblait bien décidé à s'inventer une légende. Mais qu'imaginait-il alors de la trajectoire qui le mènera, plus de 55 ans plus tard, au prix Nobel de littérature ? Auteur, compositeur et interprète, Dylan est celui qui va, en quelques années seulement, bouleverser la musique et la vision du monde de toute une génération. Lui voit de la poésie en tout et préfère le mouvement perpétuel de l'illusion à ce qui fige, à ce qui catégorise. Dans l'autobiographie en partie fictive qu'il s'est construite au fil des ans, Bob Dylan dira qu'il est orphelin, qu'il a passé une partie de son enfance au Nouveau-Mexique et qu'adolescent, il a été engagé dans un cirque à voyager dans toutes les villes de l'Ouest. Car oui, il se veut de la famille du cirque, des vagabonds, des acrobates insaisissables, ces saltimbanques qui évoluent librement de la vérité au mensonge. Ils sont portés par le souffle du vent avec une imagination débordante et directement branchés sur le monde. Je serai accompagné pour cette émission de celui qui a incarné Bob Dylan dans notre maison commune, la Comédie Française, et que je suis ravi d'accueillir. Bonsoir Sébastien Poudreau.
Bonsoir Guillaume.
Comme une pierre qui, c'est le titre du spectacle que vous avez écrit et mis en scène avec Marie Raymond et qui est actuellement repris en tournée. Vous admirez l'absolue liberté ainsi que l'irrévérence de Dylan. À deux voix, nous allons ce soir rendre hommage à son sens aigu du jeu et des énigmes. Nous parcourrons ses écrits et ensemble traverserons ses illuminations, ses parades boiteuses et autres cabarets peuplés de sorcières et de clochards mystérieux à la dimension mythique intemporelle. Car en dépit de toutes les polémiques liées au prix Nobel de littérature qui lui a été attribué au mois d'octobre dernier pour, je cite, « avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique », Bob Dylan est bien l'un des plus grands musiciens poètes de notre temps. Ouvrons pour commencer les chroniques de Bob Dylan. Ce sont des écrits autobiographiques qui, à leur parution en 2004, ont apporté un éclairage nouveau sur le puzzle qu'est la vie de Bob Dylan. Elle s'ouvre sur ses premiers pas à New York, ville de tous les possibles. Dylan parcourt les différents troquets et clubs du cœur artistique de la ville, Greenwich Village. Âgé de 20 ans, casquette sur le crâne, cigarette au bec et guitare sous le bras, il cherche à jouer le répertoire de chansons folk qu'il s'est constitué jusque-là. Il squatte des appartements, notamment celui du couple Ray Guth et Chloe Keel. Lui est chanteur de folk, elle fait de la sculpture. Dylan profite de leur canapé la nuit et de leur immense bibliothèque la journée. Découvrons comment le jeune Dylan, avant de trouver en lui-même la clé de l'écriture, s'est d'abord nourri de livres, lui qui deviendra un raconteur d'histoires. La porte n'était pas vitrée et il n'y avait pas de fenêtre à l'intérieur. C'était une caverne sombre, garnie de livres du sol au plafond. J'ai allumé la lumière. On ressentait tellement la puissance de la littérature ici qu'il fallait répudier son ignorance chérie. L'éventail culturel dans lequel j'ai grandi m'avait laissé un esprit noir de suie. Dans cette bibliothèque, tout ça prenait des airs de farce. On trouvait là mille choses, des livres sur la typographie, l'épigraphie, la philosophie, les idéologues politiques. De quoi ouvrir des yeux comme des soucoupes. L'état idéal de la démocratie de Périclès. Le général athénien de Thucydide à vous faire froid dans le dos, celui-là. Je cherchais les pans d'instruction qu'on ne m'avait pas donnés. Les livres étaient disposés sans ordre ou thématique particulier. Le contrat social de Rousseau était placé à côté de la tentation de Saint-Antoine et les métamorphoses d'Ovide, conte d'horreur effrayant, serrés contre l'autobiographie de David Crockett. Des rangées de livres sans fin. J'aurais voulu lire tous les livres, mais je m'en tenais surtout au recueil de poésie, Byron, Shelley, Longfellow et Poe. J'ai appris par cœur les cloches de Poe que j'ai plaquées sur une mélodie à la guitare. Les livres dans cette pièce dégageaient une énergie puissante, écœurante. Je me suis mis à lire des poésies de plusieurs pages pour voir si je gardais les premiers vers en tête. C'était un entraînement. Il fallait rejeter ses mauvaises habitudes, apprendre à se concentrer. J'ai lu intégralement le Don Juan de Byron en m'attachant à chaque détail. J'ai commencé à me fourrer toutes sortes de poèmes sérieux dans le crâne. Je tirais un wagon vide depuis un bon moment et maintenant qu'il était plein, je devais tirer plus fort. Je lisais beaucoup de pages à voix haute et j'aimais le son des mots, la langue, le sonnet de Milton sur le récent massacre des Vaudois du Piémont à propos d'innocents assassinés par le duc de Savoie en Italie avait l'élégance d'une folksong. Difficile d'expliquer pourquoi tel personnage ou tel événement donne sa valeur à une folksong. C'est sans doute affaire de justice, d'honnêteté, d'ouverture d'esprit. Elles valent un livre entier, mais elles tiennent en quelques couplets. Comme un abrégé de courage, quelque chose de libre, pas congelé dans la boue comme un vieux mammouth. Pendant ces premiers mois à New York, j'ai perdu tout intérêt pour le style beatnik, cette soif de sensation qu'illustre si bien Kerouac dans Sur la route. Ce livre avait été ma Bible, plus maintenant. J'aimais toujours la prose jazzy de Kerouac, la dynamique poétique, le souffle de l'écriture, mais son Moriarty finissait par paraître déplacé, oiseux. Ce type inspirait la bêtise. Toute sa vie, un danseur lascif et le taureau sur les épaules. J'aimais beaucoup Balzac, la peau de chagrin et le cousin Ponce. Sa philosophie, claire et simple, c'est que le matérialisme pur mène droit à la folie. Rassemblez vos énergies, c'est le secret de la vie. Il y a beaucoup à apprendre chez Mr. B. C'est un bon compagnon qui vous réserve son lot de surprises. Vêtu d'une robe de moine, il a sans cesse une tasse de café à la main. Trop dormir, ça encrasse l'esprit. Il perd une dent et il se demande qu'est-ce que ça veut dire. Tout est matière à question. Sa robe prend feu à la flamme d'une bougie. Du coup, il s'interroge. Est-ce que c'est bon signe, le feu ? Balzac est hilarant. Chez Ray, ses livres, c'était quelque chose. Vraiment quelque chose. J'y retournais toujours. Je creusais là-dedans comme un archéologue. Mon regard se perdait dans la pièce. Un soir, j'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre. La nuit tombait. Il y avait une bonne épaisseur de glace le long de la rampe de l'escalier de secours. J'ai scruté la ruelle, les toits des immeubles, un gratte-ciel puis un autre. Il recommençait à neiger, couche de blanc sur couche de ciment. Poser les fondations d'une nouvelle vie, ça n'en avait pas l'air du tout. Pour commencer, je n'avais pas vraiment rompu avec la précédente. Avant tout, je voulais bien discerner les choses pour m'en libérer ensuite. J'avais besoin d'apprendre à réduire les faits, les idées. Il était impossible de tout appréhender en même temps. C'était comme les livres dans la bibliothèque, il y en avait trop d'ouverts à la fois. Mais à condition de bien comprendre, on pouvait peut-être tout condenser dans un seul paragraphe, un seul couplet. La ville entière se balançait devant mon nez. J'avais une idée nette de l'endroit où se trouvaient les choses. Il n'y avait pas à s'inquiéter pour l'avenir. Il était finalement proche. La suite, on la connaît. Muni de son esprit joueur et rieur, Dylan se lance. C'est l'alchimie immédiate de toutes ses références, littéraires, historiques, bibliques et poétiques, en une créativité jaillissante. La machine à écrire sur laquelle il tape et tape en permanence, quitte à ce que ce soit sur du papier toilette, vient consolider l'image du poète fiévreux. En 4 ans, il aura écrit la plus grande partie de son histoire musicale. Voici sans plus attendre quelques bribes de ses grands succès. À cette époque, Bob Dylan, c'est une vanne ouverte. Ses chansons sont là, elles existent, confiera-t-il en octobre 1962, en attendant que quelqu'un les écrive. Je n'ai fait que les mettre sur le papier. Il devient chroniqueur de l'Amérique du début des années 60 avec l'intuition de questions qui émeuvent un pays entier.
J'ai dû écrire moi-même ce que je voulais chanter, car personne ne l'écrivait. Je le trouvais nulle part. Ce que je sentais approprié en rapport à la réalité de l'époque, personne ne le faisait. Si je l'avais trouvé, je pense que probablement je n'aurais jamais commencé à écrire.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Combien de routes un homme doit-il parcourir avant que vous ne l'appeliez un homme?
And how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Et combien de fois doivent tonner les canons avant d'être interdits pour toujours?
Yes. And how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Oui, et combien d'années doivent exister certaines gens avant qu'il leur soit permis d'être libre?
Yes. And how many ears must one man have before he can hear people cry?
Oui, et combien d'oreilles un seul homme doit-il avoir avant de pouvoir entendre pleurer les gens?
Vous aurez reconnu Blow in the Wind, écrite en 10 minutes dans un café de Greenwich Village en avril 62. Interviewé par Martin Scorsese pour son film documentaire No Direction Home, Dylan dira: « Je ne savais pas si c'était une bonne chanson, ça sonnait juste. J'avais besoin de chanter avec ce langage, un langage que je n'avais jamais entendu auparavant. » Ça marche, ses chansons deviennent des hymnes. Du coup, il y a une résonance extraordinaire entre lui, sa découverte de l'écriture, et tout un pays, toute une génération. À son insu, Dylan devient en quelques mois l'incarnation du protest singer, le chanteur contestataire. Il chante les territoires nouveaux. Ainsi, par exemple, « The Times They Are Changing », la chanson qui donne son titre au 3e album de Bob Dylan. Il l'écrit dans l'élan de la marche pour les droits civiques du 28 août 1963, à laquelle, tout débutant, il participera à 2 mètres de Martin Luther King. C'est la chanson de Dylan, un appel poétique pour créer un monde nouveau. En voici quelques passages. « Free at last, free at last, thank God Almighty,
we are free at last. » Rassemblez-vous d'où que vous soyez et admettez qu'autour de vous l'eau commence à monter. Acceptez que bientôt vous serez trempés jusqu'aux os, et si vous croyez mériter d'être sauvés, alors nagez, sinon vous coulerez comme une pierre, parce que les temps sont en train de changer. Vous, les sénateurs, les députés, écoutez s'il vous plaît ce qu'on vous dit, ne restez pas là à coincer l'entrée. Il y a une bataille dehors et elle fait rage. Elle secouera bientôt vos fenêtres et ébranlera vos murs, car les temps sont en train de changer. Venez, mères et pères de tout le pays, et arrêtez de critiquer ce que vous êtes incapables de comprendre. Vos fils et vos filles échappent à vos ordres. Ne restez pas sur notre route nouvelle si vous n'êtes pas capables de nous aider, car les temps sont en train de changer.
Un an et demi plus tard, Bob Dylan surprendra et déstabilisera avec la chanson qui est par la suite devenue un mythe, Like a Rolling Stone. C'est une chanson que vous connaissez bien, Sébastien Poudreau, puisque votre spectacle Comme une pierre qui met en scène la séance légendaire de son enregistrement en studio. Je vous propose de vous glisser dans la peau de Bob Dylan avec ces mots que le futur prix Nobel de littérature confie en 1966.
J'ai écrit Like a Rolling Stone après avoir abandonné. J'avais littéralement abandonné la chanson et la musique et je me suis retrouvé en train d'écrire une chanson, une histoire, un long morceau de vomi de 20 pages. Je n'avais jamais rien écrit de semblable auparavant, et il m'est soudainement apparu clairement que c'était ce que je devais faire. Beaucoup de gens, n'importe qui peut écrire. Beaucoup des choses que j'ai écrites, je les ai d'abord écrites parce que personne d'autre ne pensait à les écrire. Mais c'était seulement parce que j'avais hâte. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Je ne dis pas que c'est mieux que tout le reste, je dis simplement que je pense que Like a Rolling Stone est définitivement le genre de choses que je sais faire. Après l'avoir écrite, ça ne m'intéressait pas d'écrire un roman ou une pièce de théâtre. J'en avais juste assez, je voulais écrire des chansons. Parce que c'était un genre complètement nouveau. Parce que personne n'avait jamais vraiment écrit de chansons auparavant, en fait.
Celle chanson rock commençant par Once Upon a Time. Dylan nous offre, sur un ton plus intimiste que les précédentes, une ode à la liberté masquée derrière l'histoire d'une femme perdue dans la foule.
Tu croyais que tous se moquaient de toi, tu te foutais de ceux qui traînaient dehors, maintenant tu la ramènes moins, maintenant tu fais moins la fière d'avoir à supplier ton prochain repas. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait d'être à la rue comme une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule? Princesse dans le donjon et tout ce beau monde en train de boire et de penser qu'ils ont réussi, s'échangeant de précieux cadeaux, mais tu ferais mieux de prendre ta bague en diamant et de la mettre en gage, baby. Tu t'amusais tellement de ce Napoléon en haillons et du langage qu'il parlait. Va le voir maintenant, il t'appelle, tu ne peux pas refuser. Quand t'as rien à perdre. T'es invisible à présent, t'as plus de secrets à cacher. How does it feel to be on your own, with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait d'être toute seule, sans foyer où aller, comme une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule?
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps on the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Bob Dylan.
Not to say now that art is valueless. I think art can lead you to God.
Sans vouloir dire que l'art n'a pas de valeur, l'art peut vous mener à Dieu. Je pense que c'est le but de chaque chose. Si l'art ne peut le faire, qui le fera? Alors il vous emmène dans l'autre direction. Il est certain qu'il vous emmène, pas nulle part, il vous emmène quelque part.
Restons en compagnie de Miss Solitude, car c'est un état que Bob Dylan connaît bien et parcourons des instants de sa propre vie, à lui, tel qu'il veut bien nous la transmettre dans ses chroniques. Des instants où Dylan confie faire face à l'inconnu. Dylan joue-t-il le jeu de la vérité dans ses écrits autobiographiques? Peu importe après tout. À 25 ans, il aura écrit la plus belle partie de son œuvre et d'espoir en zone d'ombre, voici le regard distancé qu'il porte des années plus tard sur lui-même. À 20 ans, c'est le saut dans un inconnu plein d'espoir à l'aube de l'écriture. On sait parfois qu'une situation doit changer, qu'on y vient, mais il s'agit au plus d'une sensation. Cela n'est pas prémédité ou résolu, il y a seulement certains présages qu'on peut identifier ou non. Puis brusquement, quelque chose survient, très vite, et vous sautez dans un autre monde, inconnu, dont vous avez pourtant une compréhension instinctive. Vous êtes libéré, ça paraît rapide, magique, mais il n'en est rien. Il n'y a pas eu de roulement de tambour, vous n'avez pas subitement ouvert les yeux, l'esprit en alerte, sûr de vous. C'est plus lent, plus progressif. Comme lorsqu'on a l'habitude de travailler à la lumière du jour et qu'on voit soudain la nuit tomber plus tôt. Peu importe où on se trouve, on n'y changera rien, c'est une prise de conscience. Quelqu'un tient le miroir au-dessus de la porte, on vous pousse à l'intérieur et il faut vous habituer au nouveau décor. À 30 ans, on découvre un Dylan prisonnier de son image, au bord du gouffre.
J'avais l'impression d'être un bout de barbaque jeté aux chiens. Le magazine Esquire montrait en couverture un monstre à quatre têtes, la mienne et celle de Malcolm X, de Kennedy et de Castro. Qu'est-ce que ça voulait dire, bon Dieu ? Je me sentais projeté au bord de la terre. J'avais vraiment besoin de remettre de l'ordre dans mes idées, de cesser d'en vouloir au monde extérieur, de m'éduquer, de faire le tri dans mes bagages. Il me manquait le temps et la solitude. J'étais malade des extrapolations bâties sur mes morceaux, de les voir retourner à des fins polémistes, d'être sacré frère aîné de la rébellion, pape de la contestation, tsar de la dissidence, baron de l'insoumission. Qu'est-ce que c'est que ces salades ? Il fallait prendre le taureau par les cornes. À un moment ou à un autre, la musique me rattraperait, il faudrait faire face. Revenir sur scène, tourner des retrouvailles, la bohème et la route. Changer d'idéologie comme on change de pneus, de chaussures, de cordes de guitare. Je vivais dans l'ombre pour me faire oublier. À la presse, j'ai compris qu'il fallait mentir. Même assis au volant, les yeux sur une route dégagée, je n'arrivais pas à étouffer le tintamarre qui résonnait dans ma tête. Je me sentais comme un oiseau en cage, un réfugié, zigzagant de lacet en lacet, comme un type en train de convoyer un cadavre dans un état voisin, susceptible d'être arrêté à tout moment.
À propos du premier album qu'il compose en 1970, après une période de silence, lucide, Dylan poursuit. Ces chansons-là, au moins, ne me vaudraient pas des manchettes assassines. Message ? Pas de message. Ceux qui en attendaient seraient forcément déçus. Ces chansons-là pouvaient s'envoler comme de la fumée de cigare. Ça me convenait très bien. Ces morceaux n'étaient pas de ceux qui rugissent dans votre tête. Je savais faire la différence. Je n'avais pas perdu tout talent, mais je ne sentais pas la force du vent. Pas d'explosion stellaire. Accoudé à la console, j'écoutais un des mix. À plein, ça allait. La source d'inspiration s'est tarie et presque 20 ans plus tard, on découvre Dylan en butte à l'interprétation de ses propres chansons.
Jusque-là, je m'étais fait des illusions, usant ce que j'avais de talent jusqu'à la corde, même au-delà. J'en étais conscient. Depuis des années, le public avait droit à des fournées successives de tous mes enregistrements, mais mes concerts ne semblaient jamais rendre justice à l'esprit des chansons. Balles lancées sans effet. Parmi bien d'autres choses, leur intimité m'échappait. Alors, en associant différentes techniques, je pensais pouvoir jouer sur les niveaux de lecture, les époques et les rythmes, de façon à donner davantage d'éclat à mes chansons. Les sortir de la tombe. Professionnellement, les 10 années écoulées m'avaient laissé défait et épuisé. Bien des fois, en approchant de la scène avant le concert, je m'étais surpris à penser que je ne respectais pas ma propre parole. De quelle parole il s'agissait, je ne me souvenais pas bien, mais j'étais sûr qu'elle était quelque part. J'ai eu beau essayer de la réveiller, il ne paraissait pas y avoir de formule. La grosse machine détournée haletait depuis un moment, c'était presque le point mort. Quelqu'un s'était évanoui en moi. Je me sentais foutu, dépouillé, une épave. Où que j'aille, je restais le troubadour des 60s, une relique du folk rock. Je n'étais mu par aucune sorte d'inspiration. Celle du début, s'il en fût, s'était rétrécie, évanouie. Mes propres chansons m'étaient devenues étrangères. J'étais trop malhabile pour leur piquer dans le vif, en percer la surface. L'histoire m'avait retiré ses projecteurs. Le vide chantait dans mon cœur et j'avais hâte de me soustraire, de plier la tente. Sur les masses de chansons que j'avais écrites, j'en jouais finalement assez peu. Je devais pouvoir en exécuter à peine une vingtaine. Les autres étaient trop mystérieuses, traversées de trop de courants sombres pour que j'arrive à les métamorphoser. C'est comme trimballer un paquet de viande en décomposition. Je n'arrivais plus à comprendre d'où elles sortaient. La lueur s'était éteinte, l'allumette brûlait jusqu'au bout. Je faisais semblant. Malgré mes efforts, le moteur ne démarrait plus. Je marchais depuis trop longtemps à l'instinct et à l'intuition. Et problème, ces jantes d'âme s'étaient muées en vautour et me suçaient la moelle. Même la spontanéité était devenue une canne blanche. Mon foin n'était pas lié en bottes et je commençais à craindre le vent.
Le vent le portera et Dylan, tel qu'il se décrit dans ses chroniques, va retrouver le feu intérieur. Plongeons avec lui au cœur d'un instant de la vie d'un artiste sur scène. Brusquement, un soir en Suisse, à la Piazza Grande de Locarno, tout s'est disloqué. J'ai sombré un instant dans un trou noir. Nous jouions en plein air dans un vent déchaîné. C'était une de ces nuits où le ciel peut s'effondrer. J'ai ouvert la bouche pour chanter et l'air manquait. Présence vocale éteinte, rien ne sortait. Lâché par la technique. Je n'arrivais pas à le croire. Moi qui pensais avoir maîtrisé le truc, non. Il y avait encore un piège. Ça n'était pas une partie de plaisir d'être coincé dans une telle situation. Vous êtes au bord de la panique. 30 000 personnes ne voient que vous et rien ne se passe. Ça peut vraiment tourner idiot. En désespoir de cause, je suis allé au plus pressé. J'ai inventé un mécanisme pour redonner vie à la formule en panne. J'ai fait ça automatiquement, au bord du vide, jetant un sort à ma façon pour chasser le démon. Aussitôt, c'était comme un pur sang qui défonçait le portail. Tout est revenu et en plusieurs dimensions. J'étais moi-même surpris. J'en tremblais presque et je me suis envolé. Le phénomène inattendu s'était produit devant tout le monde. On a peut-être noté une saute d'énergie, mais guère plus. Personne n'aura remarqué que c'était en fait une métamorphose. Cette énergie-là provenait d'une centaine de sources, aussi imprévisibles les unes que les autres. J'étais devenu un autre interprète, inconnu au vrai sens du mot. En plus de 30 années de scène, je n'avais jamais vu ces régions-là, je n'y étais jamais allé. Si je n'existais pas, il aurait fallu m'inventer. Allons à présent faire un tour dans l'immense galerie de personnages qui peuplent les chansons de Bob Dylan et décryptons une de ses plus belles chansons en compagnie de François Bon, écrivain français et auteur d'une biographie de Dylan parue en 2007. Il s'agit de Ballad of a Thin Man, chanson aux accents burlesques qui figure sur l'album Highway 61 Revisited. Il paraît un des personnages les plus énigmatiques de la galaxie Dylan, celui qui a sans doute fait couler le plus d'encre, Mr. Jones. Just what you will say when you get home. Voici ce que l'auteur expliquait à son propos lors d'une interview en août 1965. C'est une personne réelle. C'est quelqu'un de vivant. Je l'ai vu un jour entrer dans une pièce et il ressemblait à un chameau. Il a mis ses yeux dans sa poche. Je lui ai demandé qui il était et il a dit « c'est Mr. Jones ». Puis j'ai demandé à son chat « c'est tout ce qu'il sait faire, mettre ses yeux dans sa poche ?» Il m'a répondu « il pose son nez sur le sol. Tout y est. C'est une histoire vraie », conclut Dylan. Les présentations étant faites, je vous laisse, cher Sébastien, nous faire entrer dans l'univers de Mr. Jones avec « Ballad of a Thin Man », la ballade d'un homme mince.
Tu rentres dans la chambre, tu as ton stylo à la main, tu vois un type tout nu. Tu demandes c'est quoi ça? Tu essaies vraiment très fort, mais tu ne comprends pas ce que tu diras en rentrant chez toi. Parce qu'il se passe quelque chose ici, mais tu sais pas ce que c'est. Et toi, Mr. Jones? Tu redresses la tête et tu demandes c'est bien là? Et un autre tend son doigt vers toi et dit c'est à lui? Et toi tu dis qu'est-ce qui est à moi? Et quelqu'un d'autre dit bah oui, qu'est-ce qui est à lui? Et tu dis oh mon Dieu, est-ce que je suis vraiment tout seul ici? Parce qu'il se passe quelque chose ici, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et toi, Mr. Jones?
Voilà ce qui vient sous la main de Dylan, écrit François Bon. Évoquons tout de suite avec lui les inspirations de la chanson. Car en effet, qui se cache derrière Mr. Jones? Est-ce qu'on ne se comprend même plus soi-même? Est-ce que c'est la dépossession de soi où vous installe progressivement la consommation des pilules à rêve? Rampez jusqu'au lieu même du texte. Par tout ce qu'on peut extorquer d'images, de détails, de syntaxe ou d'étymologie, de références et de parallèles. Do you, Mr. Jones? C'est une chanson qui depuis 40 ans fait peur pour la tension qui la traîne de refrain en refrain et la silhouette de Jones, là, derrière. Jones, c'est l'anonyme, c'est l'être rien, c'est la silhouette en costume. L'homme mince de Dylan, c'est le cas de Kafka. Dylan cite plutôt Scott Fitzgerald que Kafka dans la chanson, mais dans le dernier couplet de Ballad of a Thin Man, il fait une allusion directe aux portes de la loi dans le rêve de la cathédrale du procès. C'est bien Kafka qui est derrière ce chant de l'homme si mince qui s'efface. Moi, j'aime dans cette chanson la convocation des vieilles démonstrations de fêtes foraines. Dans les années 60, on les promenait encore, on exhibait les monstres de baraques, les bricolés à deux têtes, comme on promenait encore après-guerre dans un cirque américain la jambe amputée de Sarah Bernard placée dans un grand bocal de formol. Le génie de Dylan, c'est de ne pas dévoiler ses sources. « J'ai seul la clé de cette parade sauvage », phrase de Rimbaud qu'il connaît par cœur.
Tu as fréquenté des professeurs, ils ont aimé ton look. Tu avais de bons avocats pour parler de lépreux et d'escrocs. Tu as même lu tout Scott Fitzgerald. Tu as lu beaucoup de livres, tout le monde le sait. Parce qu'il se passe quelque chose ici, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et toi, Mr. Jones? Bon, la valeur de sabre, il vient vers toi, et puis il s'agenouille, il fait le signe de croix, et puis il fait claquer ses hauts talons. Et alors là, sans cri égard, il te demande ce que ça fait. Et il te dit, je vous rends votre gorge, merci pour le prêt. Parce qu'il se passe quelque chose ici, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et toi, Mr. Jones? Et maintenant, tu vois ce nain borgne qui hurle maintenant. Et tu dis, pour quelle raison? Et il dit, comment? Et tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et il hurle en réponse, tu es une vache, donne-moi du lait ou rentre chez toi. Parce qu'il se passe quelque chose ici. Et tu sais pas ce que c'est. Et toi, Mr. Jones?
Poursuivons avec François Bon sur son ressenti à l'écoute de Ballad of a Thin Man. Dylan développe sa parade. L'homme entre dans sa chambre, un type est là, qui ne se définit que par sa question absurde et le dialogue impossible. Alors il devient cette suite de figures, le trapéziste, le nain. Et le narrateur ensuite explore avec son corps disloqué, sens par sens, sa chambre qui est vide. C'est une folie alors. Et si une grande chanson de Dylan, c'était comme renverser dans une maison d'enfance un carton de vieux jouets. Il reste de belles couleurs, même un peu abîmées. Il y a des cassettes de vieux films et des livres avec des histoires qui faisaient vaguement peur. Reste l'homme mince. Reste à déchiffrer ce qui n'est pas déchiffrable. Allusion en miroir, déplu à l'infini, derrière l'avocat, les lépreux et les escrocs. Chez Dylan, compositeur, la narration est plus audacieuse que les images elles-mêmes. Le récit s'arrête à peine le temps d'un vers, l'image est soufflée par le suivant. Et Dylan n'a que 24 ans.
Je ne sais pas si je n'ai jamais été heureux pour parler franchement. Je ne sais pas. Heureux, je ne me considère pas moi-même heureux, non plus malheureux. Mais je n'ai jamais pensé à la vie en termes de bonheur ou non-bonheur. Pas non plus en termes de croissance, de maturité. Je vais vous dire ce que je pense de tout cela. Je pense que l'on ne s'arrête jamais nulle part. Il n'y a aucun endroit où s'arrêter. Il n'y a pas d'endroit où rester. Il n'y a pas d'endroit qui vous gardera. C'est une chose naturelle. Je vois chacun comme cela, le monde entier. Ceux qui ne font pas cela sont ceux qui sont en train de mourir.
Poursuivons notre route sur le flot des images et références de Bob Dylan, car cet univers complexe et riche est celui d'un vrai poète. Sa rencontre avec un des fondateurs de la Beat Generation, le poète américain Allen Ginsberg, en 63, a été déterminante dans son exploration de la musicalité des mots et l'affirmation de sa veine surréaliste. Il n'y a pas de poésie sans amour, et vous allez nous le prouver, Sébastien. Prolongeons la performance, comme tout admirateur de Bob Dylan qui se respecte, vous êtes venu avec votre guitare. Je vous propose donc de la rejoindre pour nous faire entendre une des belles chansons d'amour de Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right. Chanson désespérée et amère que Dylan adresse à Suze Rotolo, son grand amour de jeunesse.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When you rooster crows at the break of dawn, look at your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. That I never knowed. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. It ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. It ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wandering on the way down the road. Once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey babe, where I'm bound, I can tell. Goodbye's too good a word, girl, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you're treating me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasting my precious time. But don't think twice, it's alright.
Merci du studio 107 à France Inter. Bob Dylan était très connu pour ses chansons, pour ses musiques, mais aussi pour ses conférences de presse. Bob Dylan est en effet réputé et redouté pour sa manière tout à lui de brouiller les pistes et de répondre par énigme. Quelque chose me dit, Sébastien, que vous êtes sensible à cette petite marque d'irrévérence, cependant dénuée de vulgarité. Je me remets pour ma part dans la peau du journaliste et face à vous, c'est promis, je ne me laisserai pas démonter. Nous sommes le 3 décembre 1965 à San Francisco. Dylan ne parle pas très fort. Vous vous considérez d'abord comme un chanteur ou comme un poète ?
Pour moi, je suis plutôt un homme de la chanson et de la danse, vous savez.
Pourquoi ?
Je crois pas que nous ayons suffisamment de temps pour en parler.
On vous a entendu dire que si vous êtes vraiment crevé, vous ferez autre chose. Cela veut dire quoi, crever ? Et prévoyez-vous cette situation ?
Non, je ne la prévois pas, mais c'est plus ou moins comme une sensation impitoyable. Tout à fait implacable, avec un côté ivresse.
Les critiques qui vous ont reproché d'abandonner le domaine du folk et de passer au folk rock n'ont pas eu l'air de beaucoup vous toucher. Vous tiendrez-vous à ce nouveau genre ou bien continuerez-vous d'écrire ?
Je ne joue pas de folk rock.
Comment qualifiez-vous votre musique ?
Ce serait plutôt une musique visionnaire, de la musique mathématique.
Pensez-vous qu'à un moment donné, vous vous mettrez à peindre ou à sculpter ?
Ah oui.
Pensez-vous qu'un jour, on vous pendra comme voleur ?
Cette question n'était pas prévue.
De quoi parle votre nouvel album ?
De... un peu toutes sortes de choses. Des rats, des ballons. Ce sont les seuls objets qui me viennent à l'esprit en ce moment.
Est-ce qu'il arrive que vos chansons parlent de personnages réels ?
Oui, ce sont tous des personnages réels.
Par exemple ?
Des exemples ? Certainement, je suis sûr que vous avez vu tous ces personnages de mes chansons à un moment ou à un autre.
Qui est Mr. Jones ?
Mr. Jones, je ne vais pas vous donner son prénom, j'aurai un procès.
Quel est son métier ?
C'est un garçon de course. Il porte aussi des bretelles.
Comment expliquez-vous votre attraction ?
Attraction vers quoi ?
Votre pouvoir d'attraction, votre popularité de masse.
Non, j'en ai aucune idée. C'est vrai. Je dis toujours la vérité, c'est comme ça.
Quelle est pour vous la signification de ce type de séance de questions et réponses dont vous êtes le principal sujet ?
Je suis simplement conscient de ce que nous avons tous une image différente de tous les mots que nous utilisons. Vous savez, donc, je n'ai pas trop besoin... Je ne peux pas prendre ça trop au sérieux parce que tout... Tenez, si je dis le mot maison, nous allons l'un et l'autre voir quelque chose de différent. Si je dis simplement le mot, non? Donc nous employons tous ces autres mots comme production de masse et revue de cinéma, et nous en avons tous une idée différente, par conséquent je ne sais même pas de quoi nous parlons.
Est-ce sans intérêt?
Non, je ne dis pas cela, c'est... Vous savez, si vous voulez le faire, vous êtes venu, c'est assez intéressant. Vous savez, ça ne me gêne pas du tout.
Y a-t-il quelque chose que vous vouliez dire aux auditeurs en dehors de vos chansons?
Bonne chance.
Mais vous ne dites pas ça dans vos chansons?
Mais si, elles se terminent toutes par bonne chance, j'espère que vous y arriverez.
Pourquoi vous entêtez-vous à écrire de la poésie si nous avons tous des images différentes, si nous ne savons pas de quoi vous parlez?
Parce que je n'ai rien d'autre à faire, mon vieux.
These are songs by Woody Guthrie.
There's a valley in Spain called Jarama.
Pour conclure, traversons un poème de Bob Dylan que vous nous avez apporté, Sébastien Poudreau. C'est un hommage de Dylan à l'homme qui a décidé de son destin, le célèbre chanteur et guitariste de folk, Woody Guthrie. C'est pour le rencontrer que Dylan est venu à New York en 1961 alors qu'il était hospitalisé à Brooklyn. C'est pour lui qu'il a écrit le texte de sa première chanson significative, Song to Woody. C'est pour un hommage après la mort de Woody Guthrie en 1967 que Dylan est remonté sur scène.
Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through.
Last thoughts on Woody Guthrie. Quand tu as la tête à l'envers, quand ton esprit t'engourdit, quand tu penses que tu es trop vieux, trop jeune, trop malin ou trop bête, quand tu es à la traîne, quand tu avances au ralenti dans cette vie qui court éperdument, peu importe ce que tu fais, si tu décides de renoncer, si le vin n'atteint pas le bord de ta coupe, que tes machines de feu ont besoin d'une nouvelle étincelle, que le bois est facile à trouver mais tu es trop paresseux pour aller le chercher, que les trottoirs tournent et que la rue est trop longue, que tu fais marche arrière tout en sachant que c'est une erreur, que la solitude te gagne à mesure que tombe le jour, que le matin suivant te semble loin, que les rênes de ton cheval glissent, que tes mains ruisselle et laisse échapper les cordes, que ton ciel pleure, que tes égouts débordent, que les éclairs brillent, que le tonnerre éclate, que les fenêtres s'ouvrent, se ferment puis se cassent, que les toits tremblent, que ton monde n'est plus que bruit et fureur, que tes minutes de soleil deviennent des heures de tempête, que tu te dis « je ne savais pas que ce serait comme ça, pourquoi ne m'ont-ils rien dit le jour où je suis né ?» que le froid t'envahit et que tu sautes pour te réchauffer, que tu cherches ce que tu n'as pas encore trouvé, que ta petite amie te quitte et s'envole ailleurs, que ton cœur est malade comme un poisson frit, que ton marteau piqueur tombe à tes pieds, que tes cloches résonnent sans que tu les entendes teinter, que tu penses que tes oreilles ont été blessées, que tes yeux ont été ternis à la vue de cette crasse, que tu penses avoir échoué dans la course d'hier, quand tu as été grugé en croyant posséder une quinte floche alors que tu ne tenais que trois dames, et ça te rend fou, ça te rend mauvais, c'est comme d'être au cœur de Life Magazine, comme une boule de flipper qui part dans tous les sens, et il y a quelque chose dans ton esprit que tu voudrais dire, que quelqu'un quelque part devrait entendre, mais c'est bloqué sur ta langue et scellé dans ta tête, et ça te tourmente quand tu es sur ton lit et tu essaies de tout ton cœur, mais tu n'arrives pas à le dire et tu as peur de l'oublier. Et tes yeux sont baignés par ces larmes dans ta tête, et tes oreillers de plumes deviennent des couvertures de plomb, et la gueule du lion s'ouvre, et tu fixes ses dents, et sa mâchoire se referme sur toi, et tu t'aplatis, et tes mains sont attachées dans ton dos, et tu aimerais n'avoir jamais suivi cette déviation, et tu te dis simplement, qu'est-ce que je fais sur cette route où je marche, sur cette piste où j'avance, dans ces dédales où je traîne, dans la place que je prends, dans cet air que j'inspire, ma confusion est-elle si grande, ma confusion est-elle si profonde, pourquoi suis-je en marche, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dis?
Pourquoi suis-je en marche? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je sais? Dans la guitare que je gratte, dans la fragilité de ce banjo, dans les accords de cette mandoline, dans ces chansons que je chante, dans ces mélodies que j'entonne, dans ces mots que j'écris, dans ces mots que je pense, dans cet océan d'heures que j'avale sans arrêt. Qui suis-je en train d'aider? Que suis-je en train de briser? Que puis-je donner? Que puis-je prendre? Mais tu essaies de toute ton âme de ne jamais penser ainsi, de ne jamais laisser ces pensées gagner du terrain ou te broyer le cœur. Mais très vite, tu sais pourquoi elles rôdent. Elles veulent juste une chance de te tomber dessus, car parfois tu les entends quand la nuit rampe vers toi, et tu redoutes qu'elles te privent de sommeil, et tu sautes de ton lit, du dernier chapitre de tes rêves, et tu ne te rappelles plus si c'était toi qui criais dans ce rêve. Et tu sais que tu as besoin de quelque chose de spécial, et tu sais qu'aucune drogue ne saura te guérir, et tu sais qu'aucun alcool n'empêchera ton cerveau de saigner. Tu as besoin de quelque chose de spécial, ouais, tu as vraiment besoin de quelque chose de spécial. Tu as besoin d'un train volant et fulgurant pour suivre la piste d'une tornade, pour t'envoyer ici et t'envoyer là. Tu as besoin d'un cyclone dans une énorme machine à vapeur qui claquerait, mugirait et soufflerait à jamais, qui connaîtrait et reconnaîtrait tes malheurs. Tu as besoin de quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte, pour te montrer ce que tu as déjà vu mais que tu as négligé des centaines de fois. Tu as besoin de quelque chose pour ouvrir tes yeux. Tu as besoin de quelque chose pour faire savoir que le monde ne va pas te battre, qu'il ne va pas t'aplatir, qu'il ne peut pas te rendre fou, peu importe le nombre de coups qu'il te donne. Ouais, tu as besoin de quelque chose de spécial.
Ouais, tu as besoin de quelque chose de spécial, tu as besoin de quelque chose de spécial pour te donner de l'espoir. Mais l'espoir n'est qu'un mot que tu as peut-être dit ou peut-être entendu au coin d'une rue, et tu ne peux le trouver dans aucun nightclub. Et ce qui est sûr, c'est que tu peux gratter tant que tu veux, tu ne le trouveras pas sur un ticket déchiré. Et ce n'est pas dans les parfums à la gomina ou les vêtements de coton, pas plus que sur les mannequins du prix unique ou ces abrutis de bubblegum. Et ce n'est pas dans ces bruits de marshmallow, de ces voix de gâteau au chocolat qui frappent et tapent dans leur papier cadeau en disant « Je suis pas jolie, je suis pas mignon, regarde ma peau briller, regarde ma peau rougir, regarde ma peau sourire, regarde ma peau pleurer. » Et tu hurles contre toi-même et tu jettes ton chapeau en disant « Mon Dieu, est-ce que je suis obligé d'être comme ça? N'y a-t-il personne ici qui me connaît vraiment? N'y a-t-il personne ici pour comprendre ce que je ressens ?»«
Mon Dieu, est-ce que je suis obligé d'être comme ça? N'y a-t-il personne ici qui me connaît vraiment? N'y a-t-il personne pour comprendre ce que je ressens? Dieu Tout-Puissant, ça ne peut pas être vrai. » Non, mais ce n'est pas ta partie, encore moins ta course. Tu n'entends pas ton nom, tu ne vois pas ton visage, tu dois chercher ailleurs. Et où trouver cet espoir que tu cherches? Où trouver cette lampe qui brûle? Où trouver cette source intarissable? Où trouver la lueur de cette bougie? Où trouver cet espoir que tu sais être là? Oui, là, quelque part.
Merci Sébastien Poudrou. Le spectacle de théâtre dans lequel vous interprétez Bob Dylan comme une pierre qui, commis en scène avec Marie Raymond, sera en tournée dans toute la France, avec un passage au Printemps de Bourges le 18 avril, avant sa reprise à Paris au Studio Théâtre de la Comédie Française du 25 mai au 2 juillet prochain. Pour toutes les références que nous avons citées, je vous envoie au site internet de l'émission et vous rappelle Les Indispensables, Chronique, le premier volume des écrits autobiographiques de Bob Dylan, et Bob Dylan, la biographie de François Bon, qui sont tous les deux disponibles en livre de poche. Ainsi que la nouvelle Bible Bob Dylan, la totale de Philippe Margotin et Jean-Michel Guédon, les 492 chansons de Dylan enfin expliqué, c'est aux éditions du Chêne.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Richard Dufour. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourou-Séliquois, Perrine Maninge et Claire Tessert. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci encore Sébastien.
Merci Guillaume.